Bienvenue sur la chaîne de podcast d'Elizen.fr. Bonne écoute et surtout bonne pratique.
Alors maintenant, je vais vous parler du thème qui était prévu pour ce soir, c'est le bouddhisme zen et les émotions. Alors pour tout vous dire, c'est un de mes thèmes favoris parce que j'ai l'expérience, peut-être comme vous aussi, que c'est les émotions qui me font vivre, c'est les émotions qui guident nos choix, du matin au soir, de façon la plupart du temps inconsciente. Et pourtant, dans notre société, l'éducation à l'émotion, ou bien la prise de conscience des émotions, c'est pas tellement développé. Maintenant, ça commence à venir, mais c'est un peu long. Voilà. Et quand on est assis immobile, on a une perception très fine de ce qui se passe dans nos pensées, mais aussi dans notre corps. Et c'est donc un terrain idéal pour commencer à étudier les émotions et surtout à savoir quoi en faire. Donc, je trouve que ce thème est surtout adapté à la situation qu'on traverse. Évidemment, avec le Covid, avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup d'émotions inconscientes et incontrôlables qui surgissent. Des peurs, des inquiétudes pour l'avenir. Il y a ce spectre d'une crise économique, il y a le changement climatique, si on regarde le monde actuel, on pourrait être déprimé. On a des bons éléments pour se dire que ça ne va pas forcément être simple ce qui nous attend. Je ne suis pas là pour vous déprimer. La bonne nouvelle vient après. Pour l'instant, je constate le désastre avec vous. Et ensuite, je vais vous proposer quelques pistes de pratique bouddhiste pour voir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Alors, donc un élément clé du bouddhisme par rapport à ça, une clé de compréhension, c'est cette idée de l'impermanence et de l'incertitude. Alors, dans nos sociétés, avec le confort, avec le fait qu'on est, nous, dans des pays riches, on a, ces dernières années, essayé de tenir à distance tout ce qui était le risque. Donc, on a des assurances pour tout. On a assuré nos chiens, nos voitures, nos maisons, nos enfants, nos risques professionnels, enfin, il y a un nombre d'assurances incroyables sur le marché. On a des outils qui nous permettent, au niveau corporel, de nous sentir en sécurité. Par exemple, on rentre dans une pièce, il y a un chauffage central ou un système électrique ou quel qu'il soit, qui fait qu'on ne va pas souffrir du froid. Ce n'était pas le cas il y a quelques... Enfin, les générations d'avant, où ils devaient amener du feu dans le poêle et où il y avait une perception comme ça de la fragilité de la vie peut-être qui était beaucoup plus prégnante que de nos jours où on a mis en place tout un tas de systèmes pour nous rassurer. Alors je dis pas que c'est un mal, hein, c'est une bonne chose d'être dans une société on pourrait dire où le risque est moins grand, mais on se rend compte là avec ce qui se passe récemment et avec ce qui va se produire dans le futur, que ce risque, il n'est pas zéro, et puis que tout le monde, là je vais vous dire un truc pas sympa, il y a un très grand risque à la fin. C'est-à-dire, il est possible qu'un jour, nous mourions, d'une façon ou d'une autre. Voilà, ça va, je ne vous perturbe pas. Désolée pour cette nouvelle qui arrive comme ça au milieu de la soirée. Et pourtant, on essaie d'oublier qu'il y a la mort un jour à l'horizon. Et le bouddhisme propose cette idée de vivre au cœur de l'impermanence, dans une ouverture à ce qui est là. Accepter le fait que dans la vie, il y a de l'incertitude. C'est-à-dire, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. ni même tout à l'heure. Et cette posture intérieure, c'est en fait quelque chose qui dit « ok ». Ça veut dire « quoi qu'il arrive maintenant, une part de moi, grâce à la méditation, a appris à dire « ok ». Attention, ça ne veut pas dire que ça fait pas mal. Alors ça, c'est le point clé. Par rapport aux émotions et par rapport à la pratique de la méditation, on a l'impression maintenant, la manière dont c'est décrit dans les journaux, la manière dont c'est présenté, que c'est un outil qui va nous amener au bien-être absolu. Voilà. Alors moi, je rencontre souvent des journalistes du fait de mon métier, et ils me disent « alors vous êtes zen ?» Alors, avec cette idée que, bien sûr, tout le temps, je l'évite, hein. Vous me connaissez, c'est sûr. Avec l'idée que les événements de la vie, quand on pratique, ne pourraient plus nous toucher. Alors c'est faux, ça veut dire vivre en ouverture, vivre ok au cœur de l'incertitude, c'est accepter d'être touché. C'est accepter que de temps en temps, parfois, dans la journée, dans les événements de la vie, il y a des choses qui vont être désagréables. C'est pas une idée qu'on aime bien à la base, hein. Donc voilà. Mais c'est important. C'est la première noble vérité du Bouddha. Alors, on a Bouddha toujours un peu comme ça, il sourit, paisible, hein, on a des images comme ça. Mais pour avoir ce visage-là, en fait, il a traversé cette première noble vérité. Il y a de la souffrance. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement au niveau des émotions ? C'est-à-dire, que propose le bouddhisme par rapport aux émotions ? Le point de départ, c'est une émotion est une sensation physique. Donc quand vous ressentez quelque chose, quand vous avez de la tristesse ou de la joie, quand vous êtes amoureux, quand vous êtes émerveillé, quand vous avez de l'angoisse, quand vous êtes triste, je ne sais pas, ça va être quelque part. Hein, quand on a stressé, on a la gorge serrée, les expressions populaires l'évoquent. On a ça serre ici, ou au contraire, on sent que c'est ouvert et que l'énergie circule, etc. Donc l'émotion bouge à l'intérieur du corps. Vous êtes OK avec ça? Alors, ce qui veut dire que quand on est en train de pratiquer, on peut sentir en temps réel l'émergence émotionnelle. Tout à l'heure, quand je vous expliquais comment pratiquer, je vous ai dit, quand on pense, on a des images, on a une petite voix intérieure, ou on a des sensations physiques. C'est les trois formes de pensée, on pourrait dire, ou de surgissement de la conscience. Donc, dans les sensations physiques, il y a les émotions. Ce qui veut dire que je peux apprendre au cours de ma journée à connaître, à ressentir ce qu'il y a dans mon corps. Et c'est hyper important parce que en général, ces émotions-là, elles sont là, hein, mais on ne les sent pas. On est comme un peu coupé du corps. On a une grosse tête, on est hyper intelligent. C'est génial, les gens sont de plus en plus intelligents. Moi, je comprends plus ce qu'on me dit maintenant. Ça devient trop... Ils ont lu trop de livres, trop de savoir partout. Et ça me fait penser à ça. Et puis là, tac, 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 tac. Vous savez, c'est ces intelligences en arborescence. Il y a un truc ici, puis là, et puis là, et puis là. Et après, on a des têtes énormes. Mais... ce mental s'agite pour éviter de ressentir. Ça, c'est ma grande théorie. Je vous la lis ce soir. Je pense qu'on a développé de plus en plus l'outil mental pour échapper au corps. Et pourquoi ? Parce que le corps souffre, ressent de la posture, de la fatigue, enfin, c'était vous, il a mal. Donc du coup, comme ça fait mal, hop, on cherche une solution et on monte dans le grenier. Alors que la solution est dans les autres pièces de la maison. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe pour de vrai ? C'est qu'en fait, ça va pas être hyper agréable. Imaginez, je pense à un ami qui vient de décéder. Donc j'ai son image. Je vais avoir une émotion de tristesse. Donc par exemple, je vais le sentir ici. Et je vais aussi sentir qu'au niveau des yeux, bah, ça commence à être un peu humide. Parce que ça, c'est vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup. Voilà. Pensée, sensation, émotion. Ça nous arrive tout le temps. Hein. Si vous regardez votre timeline Facebook, et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un glissement de terrain, je ne sais pas où, avec des enfants morts. Tac. Ça nous touche direct. Hein. Vision, émotion. C'est très rapide. Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Cette sensation que j'ai là, en fait, je vais en juste ça, hein. C'est très simple, je vais en devenir consciente. Je vais devenir consciente de l'enchaînement entre la pensée de mon ami et l'émotion. Et c'est tout. Et en faisant ça, en étant consciente, c'est-à-dire en ressentant, en étant ok, je suis ok pour être triste, l'émotion est accueillie. Donc elle va s'ouvrir, elle va se libérer toute seule. En général, à la place de ça, je pense à mon ami, tac, j'ai des larmes et je continue. Ah, mais je ne reverrai plus jamais. Ah, c'était quand même bien. Et puis peut-être ça peut encore plus monter et je vais être de plus en plus triste. Et c'est ce qu'on appelle alimenter une émotion. Ou alors je vais me dire quand même, ça fait 6 mois qu'il est mort, il ne faudrait pas que je sois encore triste. C'est quand même un deuil pathologique. Alors il faudrait que je voie des consultations thérapeutiques. Alors, je peux faire toute une construction mentale à partir de images, sensations. Vous me suivez ? Donc ce qu'on va apprendre dans le bouddhisme, c'est que les émotions, elles peuvent être séquencées. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de continuer l'alimentation d'une émotion pendant longtemps. On peut comprendre ce mécanisme et l'arrêter gentiment, juste en disant « ok ». Je suis ok pour ressentir ça. Et là, il y a tout qui se pose. Parce que j'avais dit ok. Sinon, on se défend. Hein. Sinon, c'est un mécanisme pour échapper à ce qui est là. Voilà. Après, c'est pas facile. Ça demande vraiment d'être présent. Ça demande de pratiquer. Ça demande une discipline mentale, une façon d'être au quotidien. Et donc je vais quand même vous proposer un deuxième outil de la trousse de secours émotionnelle, qui est, en fait, parce que bon, des fois, la première méthode, ça ne marche pas.
C'est courir.
Ça pourrait être faire un jogging, mais c'est bien ça. C'est un peu ce dont je vous ai parlé juste avant. Si une fois vous êtes dépassé par tout ça, c'est bazar, il y a trop de trucs, tac, 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 ce que vous pouvez faire dans l'endroit où vous êtes, c'est juste vous arrêter et puis vous concentrer sur un point fixe, par exemple la pointe de votre nez. Donc vous restez juste, vous fermez les yeux, vous respirez pendant une minute, juste ça. Et quand vous faites ça, vous voyez votre mental, il va faire un focus. Et en général, ce qui nous fait du... ce qui nous rend la vie difficile, c'est quand le mental, il fait... Vous voyez, quand il bouge un peu partout. En concentrant comme ça sur la pointe du nez, vous lui proposez ça. Une ligne, un laser. Vous lui indiquez que c'est possible de... Et en faisant ça régulièrement, ça devient une habitude de vie. Voilà. Enfin, pour faire le laser, petit conseil, il faut que vos yeux soient fixes. Parce que si vos yeux font ça, votre mental bouge avec. Voilà. Vous avez des questions? Vous êtes prêts à y aller?
Okay. On dit que Zen est une pratique. Est-ce que c'est bien ça la pratique? De se concentrer de temps en temps, de se tenir en main, de...
Il faut se tenir, ouais. C'est une façon d'être dans la vie en conscience. Et donc ça demande une discipline, en effet. J'ai décidé d'employer ce mot depuis 3 semaines. Avant, je n'osais pas parce que je trouvais que ça venait un peu militaire. Et maintenant, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, ça veut dire... C'est une discipline que je me donne à moi-même. Je décide que je vais pratiquer, je vais canaliser mon mental, je vais faire être consciente de mon corps. C'est pas mes petits sons, vraiment. Voilà, bouger, il y a marqué. Ah non, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, pour terminer, on va faire un chant. C'est donc une cérémonie, un rituel du bouddhisme zen. C'est un très beau chant, vous allez voir, qui est assez facile à chanter. Et qu'on fait chaque fois à la fin des méditations ici pour... c'est pas un chant religieux spécialement, mais c'est plutôt une intention que notre pratique, ce qu'on va faire, ce qu'on a fait ensemble, ne soit pas destinée seulement à notre bien personnel, même si c'est déjà super, mais qu'en plus, on la dédie, on l'offre au bien de tout le monde, à la terre, aux étoiles, aux arbres, aux animaux, tout ce qui est vivant.
Retrouvez d'autres podcasts ou vidéos sur le site delizen.fr.